Chapitre 7. Ceux qu'il brûle. L'art est comme un incendie. Il naît de ce qu'il brûle. Jean-Luc Godard. 1. L'ancien hôtel particulier dans lequel vivait Pénélope Lorenz avait l'intemporalité et l'élégance austère des beaux immeubles du quartier entourant l'église Saint-Thomas d'Aquin. Façade claire et sobre en pierre de taille, marbre poli des marches d'escalier, hauteur sous plafond gigantesque, parquet qui craque en point de Hongrie. L'intérieur de l'appartement était pourtant à l'opposé de l'ascèse de la bâtisse. C'était même le règne du tape-à-l'œil. Comme si une sorte de sous-Philippe Stark en avait supervisé la décoration, l'œil vissé à la checklist du mauvais goût. Des fauteuils capitonnés rose bonbon recouverts de coussins en fausse fourrure côtoyaient une grande table en plexiglas, un lustre baroque démesuré, un bric-à-brac de bibelots et de lampes fantaisistes. L'homme qui ouvrit la porte à Gaspard, l'air méfiant, se présenta avec mauvaise grâce comme étant Philippe Carreia. Gaspard se rappelait que Pauline lui en avait parlé comme du premier amoureux de Pénélope. Elle était donc toujours avec lui. Le promoteur niçois était un petit homme ventripotent, à mille lieues de l'amant de Pénélope que le dramaturge avait imaginé. Tonsure, collier de barbe, valise sous les yeux, chemise grande ouverte sur des poils grisonnants et sur une dent de requin accrochée à une chaîne en or. Il était difficile de comprendre ce qui, chez lui, avait bien pu séduire la jeune femme au sommet de sa beauté qu'elle était alors. Peut-être était-il différent à l'époque. Peut-être encore avait-il d'autres atouts. Ou peut-être, plus sûrement, l'attirance entre deux personnes échapperait-elle toujours à toute rationalité. Le Niçois l'avait installé dans un petit salon qui donnait sur une cour intérieure et s'en était retourné consulter des annonces immobilières sur son MacBook doré. Gaspard avait patienté ainsi une dizaine de minutes avant d'être rejoint par la maîtresse de maison. Lorsque l'ancienne mannequin entra dans la pièce, il eut du mal à cacher sa surprise. Pénélope Lorenz était méconnaissable. Défigurée par la chirurgie esthétique, elle n'était plus qu'une caricature difforme de la femme qu'elle avait été. Son visage figé, lisse comme de la cire, semblait en train de fondre. Sa bouche, déformée, évoquait une baudruche sur le point d'exploser. Ses paupières cloquées et ses pommettes démesurément hautes avaient étréci ses yeux. Bouffie et ravagée, sa figure contrastait avec sa silhouette presque squelettique, à l'exception d'une poitrine gonflée à l'hélium. « Bonjour, monsieur Coutances. Merci de votre visite », l'accueillit-elle, le souffle court, la voix nasillarde, en venant s'asseoir en face de lui. Son regard était celui d'une bête traquée, consciente de son physique et de l'effet qu'il produisait dans le regard des autres. Comment en arrivait-on là? Comment expliquer une telle métamorphose? Gaspard se souvenait des photos du top modèle du temps où elle faisait la couverture des magazines. Altière, élancée, athlétique, radieuse. Pourquoi s'était-elle infligée cette overdose de lifting et d'injection de Botox? Quel chirurgien avait joué au peintre du dimanche et saccager les beaux traits de son visage. Il chercha quelque chose en elle, un vestige de sa beauté perdue, et le trouva dans ses yeux. Il se concentra alors sur ses iris, couleur vert d'eau, striées d'alluvions mordorées. L'escarbille incandescente qui avait dû enflammer le cœur de Sean à l'été 1992. Gaspard la salua, mais au moment d'ouvrir la bouche, renonça au plan qu'il avait mis au point avec Madeleine. Il n'y avait rien à faire. Jamais il ne serait à l'aise avec le mensonge. D'abord pour des raisons éthiques, mais surtout parce qu'il se savait mauvais comédien, incapable de tenir sur la distance la dissimulation de la vérité. Il décida donc de ne pas tourner autour du pot. « Je vais être franc, Madame Lorenz, je ne suis pas ici pour la raison que vous croyez. Je suis bien Gaspard Coutances. » Et j'ai bien écrit une pièce qui sera jouée à Londres au printemps, mais ce contrat à propos de la location de votre tableau n'est qu'un stratagème d'une collègue pour vous rencontrer.
Quelle collègue?
Celle que vous avez conduite ce matin. L'atmosphère se tendit. Gaspard sentit que Pénélope était sur le point d'appeler Carreia à la rescousse. D'un geste rassurant de la main, il tenta de la dissuader de crier. Accordez-moi 3 minutes pour vous expliquer la situation. Après, si vous décidez de ne pas répondre à mes questions, je partirai sans faire d'histoire, et plus jamais je ne vous importunerai. » Comme elle restait immobile, il continua, encouragé. « Nous sommes à la recherche de 3 toiles, peintes par Sean Lawrence, dans les semaines qui ont précédé son décès. C'est... » Pénélope l'arrêta. « Lorsqu'il est mort, Sean n'avait plus touché un pinceau depuis des années. Nous avons pourtant de bonnes raisons de penser que ces toiles existent. » Elle haussa les épaules. « Si c'est le cas, elles ont été peintes après notre divorce, ce qui signifie que je n'ai aucun droit dessus, donc en quoi cela me concerne-t-il ? » Comprenant que cette femme, emmurée dans son aigreur, ne lâcherait rien, Gaspard improvisa. « Parce que je suis ici pour vous proposer un marché. » « Quel marché ? » ?»« Si vous répondez à mes questions, et si on retrouve les tableaux grâce à vous, il y en aura un pour vous. »
« Allez vous faire foutre ! Si vous croyez que les tableaux de Sean ne m'ont pas déjà suffisamment déglingué !»
Sa peur s'était à présent transformée en colère. Elle se leva du canapé pour se diriger vers un petit réfrigérateur encastré dans la bibliothèque, à la manière des mini-bars dans les hôtels. Elle s'empara de 2 mignonnettes de vodka et vida la première, directement au goulot. Gaspard songea à la phrase de Bukowski « Find what you love and let it kill you ». Le poison de Pénélope s'appelait Grey Goose. Elle versa la deuxième flasque dans un tumbler en cristal qu'elle posa sur un guéridon en verre et fer forgé, à portée de main.
Sean Lawrence n'existerait pas sans moi, vous savez. C'est moi qui ai débloqué sa créativité et ouvert les vannes de son talent. Avant moi, c'était un tagueur minable de Harlem qui passait ses journées à glander et à fumer des joints. Et pendant plus de 10 ans, pendant toutes les années où il ne parvenait pas à vendre la moindre toile, c'est moi qui ai fait bouillir la marmite. C'est grâce à ma beauté, à mes photos, à mes publicités, à mes couvertures de magazines qu'il a pu devenir un peintre reconnu.
En écoutant son monologue, Gaspard songea au personnage de l'actrice déchue, interprétée par Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule. Même adoration de la femme qu'elle avait été. Même justification pathétique.
Pendant des années, j'ai été le feu qui alimentait sa création, sa kryptonite girl. C'est comme ça qu'il m'appelait, parce qu'il était persuadé qu'il ne pouvait pas peindre quelque chose de génial sans ma présence à ses côtés.
Et il n'avait pas tort, admit Gaspard. Les portraits qu'il a peints de vous sont magnifiques.
Vous faites référence aux 21 Pénélope, c'est ça? Je vais vous dire. Au début, c'est vrai, j'étais flatté par ses toiles. Puis cela est devenu pesant.
Pour quelle raison?
À cause du regard des autres, la source de la plupart de nos malheurs. Je voyais bien comment les gens me dévisageaient, et surtout, il me semblait entendre leurs pensées. Ils se disaient que j'étais belle, mais pas aussi fascinante que la femme dans le tableau. Vous savez quel est le secret des toiles de Sean Lawrence, Monsieur Coutances? Dites-moi.
2. C'était stimulant de travailler avec Sean Lawrence, car c'était un maître de la couleur. Dieu sait pourquoi, lorsque Bernard Bénédic lui avait parlé de Jean-Michel Fayolle, Madeleine s'était imaginé un vieux monsieur en blouse grise et aux cheveux blancs ayant depuis longtemps dépassé l'âge de la retraite. Dans la réalité, l'homme qu'il avait accueilli dans son magasin du Quai Voltaire était un black, plus jeune qu'elle, bâti comme une armoire à glace, avec une coiffure de rasta et des bagues en argent à chaque doigt, qui composait une drôle de ménagerie méphistophélique. Serpent, araignée, crâne mexicain, tête de bouc. Il portait des sneakers usés, un jean slim et une doudoune sans manches, ouverte sur un t-shirt moulant. D'un abord franc et accueillant, Fayolle lui avait offert un café et des biscuits qu'il avait posés sur son épais comptoir en chêne constellé de taches. Autour d'eux, avec ses pierres apparentes, ses voûtes et son plafond tassé, le magasin ressemblait à une échoppe du Moyen-Âge, impression renforcée par les étagères en bois poli qui couraient du sol au plafond, encombrées de fioles de couleurs. Passionné par son sujet, Fayolle semblait disposé à répondre aux questions de Madeleine, sans même savoir qui elle était vraiment.
« Je fréquente beaucoup d'artistes, » reprit-il. « La plupart sont des types égoïstes et mégalos qui pensent qu'ils sont la réincarnation de Picasso, ou de Basquiat, juste parce qu'il barbouille une toile, qu'il trouve des galeristes cupides pour les exposer et un public complaisant pour applaudir leurs excréments. »
Il piocha un petit écolier dans une boîte en fer.
Malgré son succès, Sean n'était pas comme ça. Il était même plutôt humble, et bien qu'il fût obsédé par sa peinture, ça ne l'empêchait pas de s'intéresser aux gens. Il croqua dans son biscuit et le mastiqua longuement, comme pour prendre le temps de se désaltérer à la source de ses souvenirs. Par exemple, lorsqu'il a su que je trimais pour payer la maison de retraite de ma mère, il m'a signé un chèque dont il ne m'a jamais demandé le remboursement. Donc c'était davantage un ami qu'un client ordinaire, fit remarquer Madeleine. Fayolle la regarda comme si elle venait d'affirmer que la terre était plate. « Les vrais artistes n'ont pas d'amis, » déclara-t-il. « C'est aussi pour ça qu'ils sont devenus artistes. J'aidais Sean comme je le pouvais en essayant de lui trouver les couleurs qu'il cherchait. Je lui rendais également quelques services. Je m'occupais notamment de l'encadrement de ses toiles. Il était très pointilleux sur ce sujet. Il ne voulait que des coffres américains fabriqués dans un bois de noyer clair très rare qu'on ne trouve qu'en Iran. Pourquoi disiez-vous que c'était un maître de la couleur ? Parce qu'il l'était. Et en partant de loin. Alors qu'il avait passé sa jeunesse à taguer des palissades et des wagons avec des bombes, Sean a opéré une transformation radicale au début des années 2000. Il était désireux d'apprendre et il est devenu un vrai spécialiste de l'histoire des pigments. Et surtout un vrai puriste. C'était cocasse de voir un ancien graffeur qui refusait d'utiliser des couleurs synthétiques. Madeleine osa une question. Fondamentalement, quelle est la différence entre la peinture synthétique et les pigments naturels? Nouveau regard de biais de la part du Rasta. La même différence qu'entre baiser et faire l'amour, entre le son d'un fichier MP3 et celui d'un vinyle, entre un vin californien et un Bourgogne. You got it? Vous voulez dire que les pigments naturels sont plus authentiques? Ils donnent des couleurs plus profondes, plus intenses, et surtout, ils sont uniques, car ils véhiculent une histoire souvent millénaire. D'un bond, Fayolle se leva de sa chaise pour se diriger vers l'arrière de la boutique. Ces pigments sont parmi les plus rares et les plus précieux du monde, s'enflamma-t-il en désignant sur une des étagères de petits flacons de verre contenant de la poudre colorée. De taille et de formes irrégulières, les minuscules fioles transparentes formaient une impressionnante palette de couleurs, allant de teintes claires et pastels à des nuances beaucoup plus sombres. Au premier abord, Madeleine ne voyait pas la différence avec les autres bocaux qui les entouraient, mais elle se garda bien de faire part de sa perplexité. Jean-Michel Fayolle attrapa un échantillon et l'agita sous son nez. Voici par exemple le lapis lazuli, aussi connu sous le nom d'Outre-mer, le bleu mythique utilisé par Fra Angelico, Léonard de Vinci et Michel-Ange. Extrait d'une roche importée d'Afghanistan, le pigment était tellement rare qu'à la Renaissance, son prix dépassait celui de l'or. Madeleine se souvenait d'avoir lu dans le roman « La jeune fille à la perle » que Vermeer s'en était servi pour peindre le turban du personnage de son célèbre tableau. Fayolle remit le flacon à sa place et, dans la foulée, se saisit d'un nouveau pigment, une poudre violette qui brillait d'un éclat intense. La pourpre de Tyr, la couleur de la toge des empereurs romains. Figurez-vous que pour en recueillir un seul gramme, il fallait extraire le suc d'une glande de 10 000 coquillages, les murex. Je vous laisse imaginer le carnage. Emporté dans son élan, il enchaîna. Ce jaune indien est obtenu par la distillation de l'urine de vache exclusivement nourrie de feuilles de manguier. Sa fabrication est bien sûr interdite aujourd'hui. Le Rasta ébroua ses dreadlocks et passa à un autre échantillon vermillon. Le sang du dragon, connu depuis l'Antiquité. La légende dit que sa couleur est née du mélange du sang d'un dragon et de celui d'un éléphant après une bataille homérique dans laquelle les deux créatures auraient perdu la vie. Fayolle était intarissable. Comme possédé par ses couleurs, il continua son cours magistral à l'intention de sa nouvelle élève. « Peut-être ma couleur préférée », annonça-t-il en s'emparant d'une nouvelle fiole qui contenait un pigment broyé à la teinte ocre tirant vers le cognac. « En tout cas, c'est la plus romanesque. » Madeleine se pencha pour déchiffrer l'étiquette. « Mummy Brown. » « Ouais, le brun égyptien. » Un pigment que l'on obtenait en broyant des momies pour récolter la résine présente sur les bandelettes qui servaient à embaumer les corps. Il vaut mieux ne pas penser au nombre de sites archéologiques
qui ont dû être saccagés pour produire ces satanés pigments. D'ailleurs, Madeline interrompit l'élan du Rasta pour le ramener à ce pourquoi elle était là. Les dernières fois que vous avez rencontré Sean Lawrence, quel genre de couleur recherchait-il ?